Chers frères et sœurs, on le voit dans la première lecture, David est généreux, il veut construire un temple à Dieu. Ah, c'est une belle initiative, c'est un signe de respect, et le prophète Nathan même le valide, cette intuition. Mais il y en a un qui ne valide pas, c'est Dieu. Parce que Dieu n'a rien demandé à David. Et que il faut savoir lui obéir avant de vouloir être trop empressé auprès de lui. Qu'est-ce que veut nous dire Dieu ? Est-ce que j'ai besoin que tu me protèges ? Est-ce que tu n'es pas en train d'inverser les rôles ? Est-ce que tu n'es pas en train de jouer à la providence ? Tu veux être provident, c'est très bien pour ton royaume, mais provident pour Dieu, ben c'est pas forcément idéal. Parce que où se situe cet épisode ? En fait, Dieu vient de donner la paix au royaume de David, et David connaît un temps de prospérité et d'apaisement pour son royaume. Mais David n'a même pas pris le temps de remercier. Il passe à autre chose. Je te construis un temple. C'est très intéressant parce qu'après cet épisode, quand David va quand même se faire remonter un peu les bretelles, si vous me permettez l'expression, eh bien, David va remercier. Il va s'approprier, il va relire ce don que le Seigneur lui a fait, avant de vouloir être tout de suite dans l'action et dans la générosité. Cette générosité qui, souvent, fonctionne comme un rempart entre Dieu et nous. Vous vous souvenez peut-être le curé d'Ars qui disait, à propos de la prière, qui est quelque chose qu'on peut donner à Dieu. Alors, il y en a qui donnent à Dieu des bouts de prière, comme ça, pour se débarrasser de Dieu, pour être sûr que Dieu va les laisser tranquilles ensuite. Ça peut être la même chose pour nous, les religieux. Pour nous, les pratiquants, on va à la messe une heure par semaine et puis que le Seigneur surtout me laisse bien tranquille le reste du temps, je vais donner son dû. Est-ce que ce n'est pas un peu la mentalité de David ? Voilà. David doit se reconnaître petit et débiteur du Seigneur, celui qui reçoit tout de lui. J'aime beaucoup ce prédicateur de Notre-Dame décédé maintenant, ou il me semble en tout cas le père Beau, qui dans les années 70-80 avait pris ses conférences de Notre-Dame et leur avait donné un prestige et une hauteur spirituelle tout à fait unique. Et dans l'une de ses conférences, il disait ceci, il racontait cette anecdote. Un nouveau diocèse, très missionnaire, où l'action pastorale est magnifique, il y a beaucoup de conversions, beaucoup de gens qui reviennent à la foi. Et l'évêque, comme il se doit, veut construire une cathédrale. Et alors il va convoquer les corps de métier, les architectes, les artistes, les bâtisseurs. Et puis il va leur donner les instructions. Et puis cet évêque va rencontrer un vieux prêtre de son diocèse et va lui dire avec enthousiasme tout ce qui est en train de se passer. Mais le vieux prêtre reste un petit peu impassible. Et l'évêque lui dit, ça ne vous réjouit pas ? Et le vieux prêtre lui dit, avez-vous pensé à vous confesser ? Rien ne sert de bâtir une cathédrale si tous vous ne vous êtes pas confessés, si tous vous n'avez pas reconnu votre pauvreté. Votre cathédrale ne sera qu'orgueil. C'est important dans nos vies, tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, si nous ne mettons pas d'abord le signe de l'humilité, tout cela est grévé d'inutilité. Et donc la réponse de Dieu ne va pas tarder à David. Tu veux me construire une maison ? Non, pas du tout. C'est moi qui vais te construire une maison. Mais on voit bien, le mot de maison ici change. Je vais te susciter une dynastie, un lignage, une descendance. Alors ça, on peut se dire que c'est vraiment un drôle de cadeau de la part de Dieu à David. Qu'est-ce que va être ce lignage ? Ça va être les rois. les rois de Juda, très bien, la dynastie va se poursuivre, mais quels sont ces rois? Quand on lit un peu le livre des rois, toujours le même refrain, et il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Sur les doigts d'une seule main, on compte les bons rois, très rares. Josaphat, Ézéchias, Josias, peut-être quelques autres, mais pas plus. Quelle drôle de réponse de Dieu. Eh oui, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il va comme lancer sur le navire, sur la mer de l'histoire, le navire de cette dynastie qui va être battue par les flots. Les rois vont être idolâtres, adultères, et puis infanticides. Manassé fera passer par les flammes ses enfants pour s'octroyer les grâces d'esprit qui pourraient le protéger. Pourquoi Dieu veut cela? Il veut simplement dire « Je veux attendre. Je veux attendre le moment favorable. » Un magnifique verset d'Isaïe dit « Le Seigneur attend l'heure de vous faire grâce. » Au moment opportun, il agira. Parce quel va être le grand mouvement de toute cette histoire sainte après David jusqu'à la venue du Christ? Ça va être l'appauvrissement. Tous ces crimes des rois, tous ces adultères, tout ce que j'ai pu évoquer, eh bien, va aboutir au châtiment de l'exil. La population de Juda va être déportée. On a trop connu par les films ces déportations. Eh bien, c'est la même chose. Déportation de ces populations en Babylonie. Et alors là, qu'est-ce que c'est? C'est la perte de sa terre. C'est la perte de son roi. C'est la perte du temple. C'est aussi la perte de sa culture, puisque les gens perdent l'usage de l'hébreu. Et puis, si on continue cette lecture de l'histoire sainte, la perte même des prophètes. Dieu va se taire. Le peuple n'est plus que dans la nuit, mais dans une nuit où brille une espérance. Et le peuple va s'appauvrir. Et va produire ce petit peuple, ce petit reste, vous savez bien qu'on appelle les Anaouim, les pauvres du Seigneur, qui vont se dire une seule chose, bah oui, cette fois-ci, le salut ne peut venir que d'en haut, ne peut venir que de Dieu, ne peut venir que pour racheter notre cœur, puisque tout le reste nous a été arraché. Et quel est le plus beau fruit de ce petit peuple des Anaouim? Eh bien, c'est Marie. La Vierge Marie, il ne faut pas la voir comme une espèce de génération spontanée. Elle a été préparée par ce peuple des pauvres. Et sa réponse et son cantique d'action de grâce, on le sait bien, son Magnificat, assume toute cette pensée des pauvres de Yahvé, des pauvres du Seigneur. Et son oui a été préparé aussi par ce peuple des petits et des pauvres. Voilà. Et elle peut cette fois-ci dire son oui. Et Dieu a attendu le moment favorable. Il transforme ce lignage en maison. Et il prend chair en mari. Alors, chers frères et sœurs, pour nous, c'est une grande joie. On se dit, ben voilà, ça y est, le Seigneur est venu sur notre terre. Il a habité parmi nous. C'est important parce que parfois cette bonne nouvelle de l'Évangile, elle n'arrive pas à la hauteur dans les effets qu'elle produit en nous, au résultat du match de foot où notre équipe préférée a gagné. Bah ouais, ça nous fait plus de joie que savoir que Dieu est au milieu de nous. Vous voyez, c'est très beau parce que dans la deuxième lecture, c'est saint Paul, et saint Paul dit: l'Évangile devient mon Évangile. Cette bonne nouvelle devient ma bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est ce qui va illuminer saint Paul à chacun des instants de sa vie. C'est ce qui va lui donner cette force d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au martyre. Parce que voilà, il sait que Dieu est avec nous. Frères et sœurs, c'est notre rôle à nous chrétiens de ne pas oublier cette joie. C'est vraiment notre spécificité. Nous avons trop de gens autour de nous qui ne vont pas bien pour l'oublier. Une toute petite anecdote. Ah oui, dans la communauté, de temps en temps, on est malade. Hein. Et donc, on va voir le médecin. Et un frère avait pris rendez-vous chez le médecin avec voilà, d'autres. Et le médecin lui dit, mais écoutez, je suis vraiment content que vous veniez me voir. Parce que tous les gens que je vois sont dépressifs. Et quand je vous vois, eh ben, je reprends le moral. Alors on se dit, c'est pas mal réussi finalement. Et si on pouvait dire ça de nous, peut-être pas quand on va voir le médecin, parce que je souhaite que ça nous soit épargné, mais voilà que quand les gens nous croisent, ils reprennent le moral. Voilà, parce que nous savons bien que notre monde, il est plongé dans la tristesse, dans la morosité. Les gens ne vont pas bien. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'enfoncer dans une sorte d'absurdité? Et je me demandais, la première des choses, c'est de lire le sens de cette crise à travers laquelle nous passons. Si à travers tout cela, notre monde n'est pas appelé à vivre comme une espèce de période d'attente, de dépouillement, d'appauvrissement, de voir les limites de mettre l'homme au centre, les limites de faire du confort, de nos aises, la source de notre bonheur. Voilà, à un moment donné, on sait bien que ça ne marche plus. D'avoir rejeté la transcendance, c'est l'erreur la plus colossale de l'histoire, comme disait un philosophe. Alors oui, eh bien le Seigneur permet que notre monde ne tourne plus très rond. Mais est-ce que ce n'est pas une miséricorde pour qu'on ait ce réflexe de nous tourner à nouveau vers lui? Voilà, la lumière est là, elle est entourée de brouillard, un brouillard épais pour nos contemporains. Ils n'arrivent pas à la voir. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que se dissipe ce brouillard? Il faut qu'en eux, en chacun d'eux, naisse la foi, l'obéissance de la foi, dit saint Paul. Sans la foi, le brouillard nous étreint, la nuit nous broie. Comment dissiper ce brouillard? Comment susciter cette foi? Par notre parole, par le témoignage de notre vie. La foi naît de la prédication. N'hésitons pas. Une parole claire qui dise notre foi. Notre parole n'est que trop attendue. Avec les frères, nous faisons des missions dans les écoles, dans les rues, et nous le voyons bien, la bienveillance qui nous accueille, qui nous attend. Parce que les gens n'attendent qu'une chose, c'est que se dissipe ce brouillard. Annoncer notre foi. Et puis, nous aussi, comme Dieu, savoir attendre, ne pas condamner ni les temps, ni les personnes. Dieu fait passer notre monde par un grand avant. Ayons la patience de Dieu, ayons la fermeté de Marie pour espérer. Alors oui, le peuple qui marchait dans les ténèbres verra se lever une grande lumière.